Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ah, salut les gars, j'espère que ça va. Je vous fais ce message là parce que je réfléchissais pardon, à un dossier numéro 2. On a déjà fait 2 épisodes sur le côté mental et je trouve que de manière générale, ça n'a pas l'air de progresser beaucoup dans le milieu. Donc je me dis qu'il y a encore pas mal de choses à soulever et le truc qu'on n'a peut-être pas assez fait, c'est de profiter de toi, Edouard, et que du coup, on pourrait... peut-être te poser des questions à toi directement en tant qu'ancien joueur. Dis-nous si ça te chauffe. Et puis si c'est le cas, on est parti.
Salut les gars. Écoutez, si ce qu'il y a dans ma tête ou ce qu'il y a pu y avoir peut vous intéresser, let's go avec plaisir. Bon, ça fait bien longtemps que j'utilise plus ce mode mental de footballeur, mais ça me fera plaisir de partager avec vous ce qui a été, je pense, sincèrement, et humblement, l'un de mes points forts.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchon.
Eh bien bonsoir messieurs. Bonsoir, parce que c'est relativement rare, on enregistre plutôt en soirée ce soir.
Il est minuit.
Ouais. Bonsoir tout le monde.
Un peu radio libre.
Radio libre, c'est parti.
Salut les gars. En cette douce soirée d'hiver, on se retrouve tous les trois. Et c'est bien, bien sympa pour. C'est le dossier numéro 2. On a teasé ce format. On en a fait un premier. On avait un peu triché parce qu'on était accompagné de Guillaume, même si Guillaume, il est de la maison, comme on dit. Mais du coup, ce premier dossier à 3. Et pour un sujet qu'on a déjà abordé, figurez-vous, mais qui, on pense, puisque c'est le fruit d'une réflexion commune, n'a pas lever tous ces mystères. Ce sujet-là, c'est le mental, de manière élargie, le mental du joueur, ce qui se passe dans sa tête. Quand je dis qu'on en a déjà parlé, c'est qu'on avait vu Meriem Selmi, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On a ensuite, 1 an après, reçu Denis Troche sur la préparation mentale. Et la raison pour laquelle on voulait se repencher dessus, c'est qu'on n'a pas l'impression depuis 2 ans que ça ait beaucoup évolué. Et il y a quelques événements qui nous ont fait aussi penser que c'était intéressant de reparler de ça. Notamment, Edouard, toi, tu avais relevé des choses en particulier.
Écoute, moi, tout le temps, on me parle toujours du mental des joueurs. Mmh. Je l'entends toujours. problème mental. Et le dernier en date, c'était Benjamin Bourigeaud qui, au sortir de match, une nouvelle défaite de Rennes, a un peu les larmes aux yeux. Mmh. Et moi, ça m'a... Une partie de moi a été touchée, mais l'autre partie de moi a été un petit peu déçue. Tu vois, c'est pas grave, quoi, de perdre un match contre... Tu vois, t'es à Rennes, il s'est pas fait... Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, il s'est juste fait siffler. Et encore, je sais même pas s'il s'est fait siffler ou s'ils se sont fait siffler. C'est pas grave. Ouais. Et donc, j'ai trouvé une forme de fragilité.
Dans le...
Une forme de fragilité qui est récurrente. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'en parler un petit peu.
Bah, surtout, ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on voulait faire ce dossier-là, c'est qu'on a parlé à une psychologue, on a parlé à quelqu'un dans la préparation mentale, c'est le métier, mais on n'a peut-être pas suffisamment parlé à un joueur. Et il se trouve qu'on en a un sous le coude, qui a joué 2-3 matchs. 576, c'est ça? 576 matchs.
Quelques ans.
Et donc, c'est peut-être intéressant de te parler de ça et de te poser peut-être toutes les questions qu'on n'a jamais posées à un footballeur. Alors, ça, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que ces questions ont été adressées. On va pas avoir cette ambition-là. Mais en tout cas, essayer d'avoir ton point de vue sur ça.
et que lui nous pose des questions, parce que je crois qu'Edouard voulait nous poser des questions sur, sur le journaliste, l'entourage, le supporter que tu peux être, toi, Mathieu, du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs. Du coup, ça va être plutôt un ping-pong entre nous, mais je pense que même si on va avoir plus de questions à poser à Edouard, puisque l'idée, c'est que l'idée, de, en tout cas le thème de cet épisode, c'est dans la tête du footballeur, en tout cas d'un footballeur qui est Edouard. Il y a beaucoup de footballeurs différents, beaucoup de visions différentes, mais en tout cas, là, ça sera celle d'Edouard ce soir.
Non, et puis là, tu pourras aussi nous parler des footballeurs que tu as côtoyés avec.
J'ai des exemples, voilà. Parce que dans un vestiaire, il y a, on a des mentales différents, des expériences différentes, et donc du coup, oui, je pourrais en parler.
Alors, pour lancer un petit peu les hostilités, moi, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques secondes. On n'a pas l'impression que ça évolue beaucoup, ce sujet du mental dans le foot. On a l'impression que dans la société, c'est un sujet récurrent, que tu as plein de choses qui sont mises en place. Rien à voir, mais tu vois, j'avais une réunion à l'école de mes enfants, qui est une école maternelle. Ils commencent à te parler du harcèlement, comment se comporter, mettre en place. En tout cas, il l'adresse. Mais dans le foot, à part, j'ai envie de vous dire, à part la parole qui se libère un peu, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'exemples d'actions menées, que ce soit par les clubs, les instances, les organisations de joueurs. Edouard, est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce que toi, tu as des retours d'anciens collègues, de joueurs actuels qui contredisent le fait qu'il ne se passe rien? Ou tu as l'impression que c'est le statu quo depuis que tu as arrêté de jouer?
Moi, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Problèmes mentaux, ça a toujours existé. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est depuis 97, moi, j'avais un livre. Comme j'ai su que le mental, c'était un vieil adage qui disait que dans le sport de haut niveau, 80% de la performance se passe dans la tête. Donc, de suite, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis documenté à ce sujet. Et j'avais un livre, et il y a un auteur qui s'appelle Dan Millman. Il y avait un livre, c'est Le guerrier pacifique. Donc, j'ai commencé à lire ça, développement personnel. Et je l'ai toujours gardé. Dans les moments de ma carrière où ça n'allait pas trop, je relisais des séquences, des moments, des passages. Et j'étais toujours effaré de me rendre compte que beaucoup de personnes disaient que tout est mental, mais que personne ne faisait du travail mental. Ouais. Personne. Tout le monde dit « Ouais, tout est mental. » Mais qu'est-ce que tu mets en place pour que ce soit mental ? Même dans le foot, il y a des moments difficiles dans une saison. Et ils disent tous, les joueurs disent tous, on va travailler plus. Ouais. C'est pas le travail à un moment donné qui a fait la diff.
Mais je vois, est-ce que le fait que tu n'aies pas fait ce centre de formation, ça explique la manière dont tu as l'approche de ton approche mentale du foot? Et la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que moi, pour avoir eu pas mal de potes qui ont été en centre de formation, qui d'ailleurs certains sont devenus pro après, tu as l'impression que c'est pas de la préparation mentale qu'on te fait en centre de formation, c'est on t'apprend à être dur. C'est-à-dire qu'il faut être costaud. Tu vois, et il y a cette importance de la force, tu vois, de la force mentale, et qu'en vrai, on essaye de former des guerriers. Mais c'est pas la seule réponse aux problèmes mentaux que tu peux avoir, aux problèmes psychologiques. Tu vois, ça fait un peu daté comme manière de réagir aux choses. Donc,
Oui, je vais répondre à ta question. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est que on leur fait pas travailler le mental. On leur fait camoufler leurs émotions. Parce que pour moi, avoir un mental fort, c'est dire « je doute en ce moment ». Les sifflets me font mal, hein, tu vois. Et tu t'entendras, t'as déjà entendu un joueur dire « non, franchement, les sifflets, ça me fait mal ». Non, non, moi je les entends pas, les sifflets. Mais si, ça te fait mal. Mais si, tu les entends. Tout le monde les a entendus. Tu sais, quand t'as touché le ballon, là, et qu'ils t'ont sifflé, il y a que toi qui t'ont sifflé. Ça te fait quoi? Bon, c'est rien, je vais leur prouver, je vais... Oui, tu as le temps de leur prouver, mais ça te fait mal. Exprime ton émotion. Et ça, c'est tabou. Il ne faut pas trop exprimer son émotion. Et il n'y a rien qui est fait sur ça.
Et comment tu les gérais, toi, ou, à part la lecture de ce livre-là, est-ce que tu travaillais ton mental? Et comment tu gérais le mental mieux ou moins bien que les autres, peut-être?
Après, c'est une approche comme... Ouais, je vais répondre à ta question. Je n'ai pas fait de centre de formation, donc je n'ai pas cette peur. Je trouve que la plupart des joueurs qui ont fait un centre de formation, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas jouer. S'ils ne jouent pas, ils ne sont pas reconnus. Comme ils ne valent rien. Personne qui ne joue pas, un joueur professionnel qui ne joue pas, pour lui, il se considère ne valoir rien. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Si je ne joue pas, c'est que je ne suis pas suffisamment bon pour jouer. Donc, j'ai plus qu'à me concentrer à jouer. Et un autre facteur, c'est que je ne me considère pas, et je ne me suis jamais considéré comme simplement un footballeur professionnel. Le football faisait partie que d'une partie de ma vie, tu vois, de ma journée. Et donc ça m'a aidé.
Ça, c'est très important ce que tu dis. Ouais. Et on va juste après te faire écouter un petit passage, une petite citation de Cécile Traverse, qui est une psychologue du sport et qui raconte ce rapport-là. Juste après, mais j'ai d'abord une petite question à te poser. Toi, tu te définissais comment ? Qui tu étais en dehors de Édouard Cissé, footballeur ? T'étais qui, toi ?
J'étais Édouard. Tu vois, je le distingue entre Édouard Cissé, parce que la plupart des gens qui me connaissent, entre guillemets, pas tous, hein, mais Édouard Cissé, c'est le footballeur. Et Édouard, c'est, je suis plus que ça. Je suis un papa, je suis un mec qui fait des vannes. Je suis plus que ça. Le foot, ça c'était que 3 heures dans ma vie.
Dieu sait que t'en fais des vannes.
Ouais, j'en fais des vannes. Ouais. C'est 3 heures dans ma vie.
Je peux vous dire que j'ai passé 90 minutes à côté de lui à Milan, j'ai souffert.
Et ce n'est que 3 heures de ma vie, voire 4 heures. Le reste du temps, je ne me considère pas, je ne peux pas être que footballeur. Et c'est ça qui est dommage dans les footballeurs. Il y avait des gars qui ne jouaient pas pendant une ou deux semaines et ils étaient tristes. Mais dans ta vie, ça va. T'es marié, t'as des enfants, ça se passe bien, ouais. Ouais, mais je joue pas samedi. Ça va. Et c'est prendre du recul, se dire de manière un peu vénale que quoi qu'il arrive, que tu joues ou que tu joues pas, t'es payé, oui. Et il est où le problème ?
Je trouve que là, ce dont tu parles, donc le fait d'être capable de dissocier le professionnel du personnel, c'est le lot en fait de plein de gens qui sont pas footballeurs professionnels et qui n'ont pas des métiers passion et des métiers surexposés. Et on a souvent parlé dans ce podcast du côté miroir déformant du foot, à savoir parce que tu as un métier exposé, parce que tu as un métier passion et c'est des gens qui rêvent de faire ce métier, tout le monde pense que tes coéquipiers sont tous tes potes et que tu as toujours envie d'aller jouer. Ouais. Et je pense que là, on est dans la lignée de ça. C'est-à-dire que ça reste mon métier, je suis capable de compartimenter et si je suis capable de compartimenter, ce qui tient... ce qui a trait au professionnel, je le laisse dans la box professionnelle, et ce qui a trait au perso, qui est différent, je le laisse dans le perso. Et ça, je pense que c'est une approche qui est plutôt saine, mais qui doit être difficile, je pense, quand t'as autant de regards, d'attention, de jugement. On viendra tout à l'heure sur le journaliste et son rôle dans tout ça, mais être capable de dissocier l'un et l'autre, c'est en soi un exercice.
T'as croisé beaucoup de footballeurs qui arrivaient comme toi à dissocier l'un et l'autre ? Ou tu dirais que quel pourcentage ? Moi, je te dirais, pour avoir rencontré quelques footballeurs, après, je ne les connais pas aussi bien que je te connais, mais je dirais que vous devez être 5% à ne pas vous définir comme footballeur.
Moi, je trouve qu'on n'est pas beaucoup. Parce que je trouve qu'il y a une forme de... On est matrixé, les centres de formation matrixent les joueurs. Ils ne pensent qu'au foot. Ils sont enfermés dans un centre de formation dès l'âge de 13 ans, de pré-formation à 13 ans, 15 ans en centre de formation, et ils en sortent peut-être à 18 ans. Et de là, en 5 ans, ils sont enfermés en vase clos, ils reçoivent les profs, enfin ils ne font pas l'école à l'extérieur, ils sont dans le centre de formation et ils ne doivent penser qu'au foot parce que c'est leur rêve. Vous voulez être footballeur ? C'est foot, 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 foot. Mais franchement, de 13 à 18, t'as envie de faire autre chose, quoi. Enfin, moi, je sais que j'avais envie de faire autre chose et surtout, parfois, pas du tout de foot. Et en fait, ils sont écœurés, ils sont fatigués et donc après, ils ne conçoivent que je suis footballeur, je ne suis que footballeur. Le reste, c'est pas pour moi. D'ailleurs, tu le vois souvent. Période de mercato. Alors Maxime, on a entendu là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez à l'étranger, il y a des propositions. Non, je laisse gérer ça mon agent. Mais comment ça ? Non, toi, concentre-toi. Je me concentre sur le terrain et après le reste, c'est pas mon souci. Mais ça, c'est la première aberration. C'est ton souci, c'est ta carrière, c'est toi qui dois mener ça. Mais depuis tout jeune, on leur a dit non, le terrain c'est vous, l'extérieur c'est nous. Et le monde extérieur du terrain, c'est pas cool. Hein. Donc les soirées, il ne faut pas y aller. Il ne faut manger que des légumes. Les McDo, non, il ne faut surtout pas y aller. C'est péché. Il faut arrêter. Enfin, moi, c'est pour ça que ça m'a... Parfois, je me suis vraiment ennuyé dans ce milieu-là. Ouais. Parce que c'était... Je trouvais que ce n'était pas le bon. Moi, je n'avais pas le bon... J'avais pas ce logiciel-là. Je n'ai jamais voulu l'acquérir. J'étais plus open source, donc je n'ai jamais voulu passer sur Mac, entre guillemets. Et j'ai voulu le garder, alors parfois ça m'a joué des tours, je pense, mais c'est ce qui m'a permis de rester et de durer aussi longtemps, et de temps en temps, dans les moments difficiles, de prendre du recul et de faire autant de matchs. Quoi.
Tu t'ennuyais à quel moment ? Dans le vestiaire, dans les discussions que tu pouvais avoir ?
Ouais, je m'ennuyais dans le vestiaire parce que je trouve que... Moi, je les adorais tous, les mecs, ils ont tous un bon fond, beaucoup d'humour, mais parfois, tu sentais qu'ils s'interdisaient d'aller dans... de penser autrement, différemment du groupe, quoi, tu vois. Ils ont été tous ensemble. Et c'était relativement terrible. Et moi, ça me dérangeait pas de penser différemment, de m'habiller différemment. Un truc tout court, moi, je m'habillais différemment. Je suis arrivé, j'avais des pantalons velours. Mmh. Enfin, maintenant, c'est la mode, mais à l'époque, pantalons velours, c'était fou. Je suis arrivé, les mecs, ils avaient tous un jean 501, des Timberland, ils étaient tous habillés de la même façon. C'est dingue.
Mais t'as l'impression que t'as le canevas du footballeur, si tu veux, et que tu dois le suivre. C'est-à-dire, effectivement, on doit manger comme ça, on doit pas sortir, on doit pas ceci, on doit pas cela. Alors que ça existe pas, un groupe d'humains aussi formaté parce qu'ils font le même métier. Alors après, bien entendu qu'ils sont sportifs professionnels ou sportifs de haut niveau, donc il y a certaines règles à respecter pour bien faire son travail. Ouais. Mais de là, si tu veux, à forcer et à éduquer le footballeur comme ça en centre de formation, je pense qu'effectivement, parfois, tu veux faire rentrer des ronds dans des carrés. Et ce moule qu'on essaye de créer, je pense que c'est le premier danger, sur la psychologie du mec, c'est que tu mets d'office, je pense, certains profils de côté, en disant, lui, il n'est pas fait pour ça, parce que il n'est pas capable de tenir ce régime-là, parce qu'il n'est pas capable de... que ce soit dans le foot ou dans autre chose, on peut parler de l'école, hein, qui parfois fonctionne comme ça, en disant, l'école, c'est comme ça, il faut être comme ça, et si tu n'es pas bon à l'école, tu es bon à rien. T'as un peu le même mécanisme dans le foot. Et psychologiquement, je pense que ça peut être violent. Et on a l'impression, encore une fois, parce que tu es dans un sport... puis t'as le côté machiste du sport, tu vois, faut être un homme, faut être costaud, etc. T'as le côté que la seule réponse à ça, c'est de la dureté. C'est-à-dire que lui, il va y arriver parce qu'il est dur. Lui, il va y arriver parce qu'il est capable d'encaisser. Alors que t'as d'autres réponses à ça. Et je pense que le challenge, et c'est là où je pense que c'est un petit peu inquiétant aujourd'hui, parce que pour toujours évoluer dans le foot et donc continuer à parler avec des formateurs, continuer à avoir des jeunes qui rentrent en centre et qui en sortent, ça fonctionne toujours comme ça. Si tu veux, j'ai pas d'exemple récent où on travaille l'approche psychologique. Quand je me rappelle, on avait parlé avec Myriam, elle avait pas pléthore d'exemples sur les centres qui travaillent différemment pour donner des clés psychologiques un peu différentes aux gamins. Et en ça, je trouve que c'est plutôt inquiétant. Et d'où ma question, toi qui n'as pas fait de centre, est-ce que c'est cette période-là, avant de passer, pro, qui t'a permis de t'ouvrir, de faire des choses différentes parce que tu n'avais pas le côté plus strict? Alors, tu es curieux de nature, et, tu vois, mais il y a aussi cet espace-là, tu l'as eu parce que tu n'étais pas en centre.
Mais tout à fait, moi, ça a été ma force. C'est cette expérience de vie entre 13 et 18 qui m'a permis d'être fort mentalement. Et je trouve, je vais même plus loin, je pense que les centres de formation détruisent le mental des joueurs. Ils adorent, ils rentrent dans un centre de préformation à 13 ans, ils adorent le foot. Ils adorent le foot. À 18 ans, ils sont écœurés de foot. C'est comme si tous les jours tu manges quelque chose, ton plat préféré, à la fin t'en as marre, tu te rends même plus compte. Et donc moi, quand j'arrive à Paris à 18 ans, 18 ans et demi, je suis frais. Parce que le discours, le nouveau discours de « Les gars, maintenant, tout commence. » Mais moi, je peux l'entendre. Parce que je faisais n'importe quoi. Ouais. Quand il pleuvait, j'allais pas à l'entraînement. Ouais. Bah, c'est facile pour moi. Mais les mecs, t'imagines, depuis l'âge de 13 ans, ils sont enfermés. Là, le plus dur commence. Mais ça fait mon adolescence, je l'ai gâché. C'est trop dur. C'est pour ça que les mecs, ils pètent les plombs. Et donc, mentalement, je trouve qu'ils sont pas équilibrés. Enfin, ils sont pas assez armés. Ils pètent les plombs. 18 ans, 19 ans. Donc, ils sortent du centre de formation, on leur donne de l'argent, ils ont un appartement, autonomie, et c'est là où ils font excès de pizza, excès de soirée, parce que les boîtes de nuit, ils les ont jamais vraiment fréquentées, donc là, ils les écument. Les relations féminines avec les femmes, ils n'en ont vraiment jamais eu. Donc, du coup, c'est bouf, yalla, c'est de l'excès. Et puis après, en fonction de ta carrière ou pas, si tu réussis, si tu réussis pas, si tu commences à jouer ou pas jouer, soit t'es quelqu'un, soit t'es un héros, soit t'es un zéro, soit t'es quelqu'un, soit t'es nobody. Mmh. Mais ça, c'est terrible, il n'y a pas de juste milieu. Et moi, je trouve que c'était grave de voir des mecs talentueux, parce que j'en ai connu des mecs talentueux, et qui se désagrégeaient, mais en un rien, quoi.
Parce que c'est trop. Enfin, l'attention, l'argent, les filles, enfin, tu vois, et puis surtout, dans le cas de la réussite, donc quand un mec commence à faire des groupes pro, commence à jouer, est appelé en équipe de France, ce moment-là qui est charnière, enfin, c'est d'une violence incroyable, tu vois. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entourage, c'est-à-dire de potes à moi qui commencent à faire des groupes pro, qui commencent à être appelés en équipe de France, qui font un euro espoir, ceci, cela. Et tu passes de rien à tout, tu vois, overnight. Et la violence de tout ce que tu reçois là, c'est pareil. La réponse à ça, elle peut pas être que dans la dureté où je me barricade, parce que c'est pareil, si tu te barricades, ça veut dire que tu n'apprends pas la chose, et c'est pas forcément ça non plus. Donc on en revient à ce manque de préparation psychologique qui, je pense, peut faire ou défaire des carrières.
Et est-ce que, parce que toi qui travailles toujours un peu dans le foot et qui vois dans l'accompagnement que tu as pu faire de certains jeunes, est-ce que tu vois une différence entre les jeunes qui sortaient du centre de formation et que toi tu as côtoyé à 18 ans quand tu es arrivé tout frais et qu'ils étaient déjà cramés, et aujourd'hui ceux qui sortent des centres de formation, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune différence et que c'est encore pire qu'avant sur la déconstruction qu'on leur apporte, enfin le fait de les matrixer et de leur dire bah, vous êtes un joueur de foot, ou est-ce qu'on commence à, est-ce qu'il y a quand même quelques différences dans l'accompagnement dans les centres de formation et de préformation, sur l'ouverture au monde, il y a quelques initiatives, mais ou alors c'est vraiment encore pire qu'avant?
Non, c'est à la marge, je peux pas comparer, mais c'est à la marge. Moi, ce qui me surprend toujours, bon là c'est le petit quart d'heure je mets des tacles au centre de formation,
on suit la carrière du footballeur, on commence par la formation, après on passe au reste.
Tu laisses ton enfant en centre de formation, c'est pour être formé, pas pour être formaté. Et ils le sont. Formaté à quoi? À être un footballeur. Mais c'est quoi être footballeur? Il faut définir ce que c'est. Bon. Bref, anyway. Je voulais dire quoi?
Est-ce que ça a changé vraiment entre...
Moi, ce qui me... Non, je pense pas que ça a changé, parce que mentalement, ils sont pas plus prêts que ça à être professionnels, à devenir professionnels. Mentalement... Et d'autant plus que maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez une responsabilité, les médias. Sitôt qu'il y a un bon joueur, tu as vu que le niveau de la Ligue 1, il a un petit peu chuté. Donc les jeunes joueurs, on veut de la fraîcheur, on veut de la nouveauté. Donc les jeunes joueurs, ils font 3-4 matchs et ils sont de suite médiatisés comme pas possible. Et de suite, t'as vu ce qu'il a fait, c'est énorme. Et de suite, tout est amplifié, les sommes d'argent sont colossales. Elles sont nécessairement pas sur leur valeur propre, mais sur leur marge, leur potentiel. Donc, un potentiel, ils peuvent l'atteindre comme ils ne peuvent pas l'atteindre. Mais voilà, on parlait d'un joueur tout à l'heure qui coûte X millions d'euros. Est-ce qu'il les vaut maintenant? Non, il ne les vaut pas du tout. Il a un potentiel pour les valoir, mais il ne les vaut pas à l'heure actuelle. Et on le juge comme s'il les valait déjà.
Comme une start-up, finalement.
C'est une start-up. C'est un footballeur, c'est une start-up. Et il est valorisé à une... Sa valorisation, c'est le futur. Mais s'il n'est pas bien entouré, si mentalement il n'a pas été équipé, si au niveau des médias on n'est pas bienveillant, bienveillant ça ne veut pas dire lui passer tout, mais lui reconnaître qu'à 19-20 ans, on a le droit de faire des erreurs. D'accord ? On ne peut pas le condamner comme un mec de 30 ans. Si tout ça n'est pas mis bout à bout, dans un an ou un an et demi, il explose et on n'entend plus parler.
J'aimerais vous faire écouter un extrait d'une interview qui a été donnée par Robert Pires dans le cadre du documentaire « Silence, je tombe » sur les dépressions qu'ont pu connaître certains joueurs de foot et qui a été le cas de Robert Pires.
Le footballeur professionnel n'a pas le droit de se plaindre, non. Parce que comme il gagne beaucoup d'argent, eh ben, ça suffit.
Est-ce que c'est pas ça, le... comme tu disais tout à l'heure, en fait, on attend qu'il soit exemplaire aussi et on attend qu'il ne se plaigne pas.
Parce qu'il est riche.
T'as jamais senti la pression de bon, c'est bon, t'es footballeur professionnel, t'as pas le droit de te plaindre vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis du.
Non, mais parce que. Alors, je vais être chiant peut-être, mais moi, comme il n'y a personne qui pouvait dire comment je pouvais penser, j'étais qui je voulais être. Il n'y a personne qui peut me dire t'as pas le droit de te plaindre. Je dis pourquoi j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai tous les droits. Il n'y a personne qui peut me dire t'as pas le droit. Ça, c'est des trucs depuis tout petit. Il n'y a que mon père qui pouvait me dire des trucs. Et encore, il m'a jamais trop imposé de choses. Mais moi, une personne qui me dit « t'as pas le droit de faire ça », qui a dit que j'avais pas le droit? Si c'est la loi, ok, mais si c'est toi, tu es qui, toi?
Mais personne, du coup, personne ne t'a jamais dit, t'as jamais pris de réflexion comme ça, où les gens savaient comment t'étais libre, et du coup, ils t'ont jamais dit ça?
En tout cas, ils ont pas osé le dire. mais bien sûr que j'étais pas heureux, mais je le dis honnêtement, moi, j'ai fait une carrière de 15 ans, j'en parle souvent à mes filles. Mon aînée, elle est passionnée de cinéma d'animation, donc elle fait du dessin, et donc à un moment donné, il a fallu réfléchir. Papa, mais toi, c'est génial, t'as fait ce que t'as voulu, c'est ta passion, c'était top. Je dis non, c'était pas tout le temps top. Mais comment ça, papa, tous les jours tu faisais du foot, c'est top. Non, je te dis, c'est pas top. Donc réfléchis à deux fois. T'aimes dessiner? Ah, j'adore ça, ouais. Oui, mais là, aujourd'hui, t'as pas dessiné. Oh non, aujourd'hui, je voulais faire autre chose. Ouais. Mais quand t'en poses à le dessiner aujourd'hui, tout le temps, quand t'as pas envie, quand t'es malade, tu dessines. Est-ce que t'as pas peur que ça va t'écœurer? Eh bien, moi, le foot, parfois, j'avais une overdose. C'est pas possible. Et quand tu dis ça à tes potes, j'avais une overdose. Ben ouais, toi t'es toujours content d'aller à ton boulot. Ah non, mais ça me saoule. Ben moi, c'est mon boulot. Le foot, c'est devenu un métier. Quand ça devient un métier, c'est une obligation. Et quand c'est une obligation, ben parfois tu fais des choses que t'as pas envie.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le côté exutoire du sport, c'est-à-dire que voilà, moi je vais à la boxe, j'adore ça. Tu vois, deux fois par semaine, c'est magnifique. Je me vis, tac, et puis super, et je repars pour une semaine. Mais si tu me disais tous les matins à 8 heures, tu pars. tu fais du sac de 8 à 10, ensuite sparring, ensuite tu manges des brocolis et physique. Tu vois, c'est un peu moins marrant déjà. Donc y a effectivement, encore une fois, on est dans la pleine conscience du fait que c'est un métier. Et que comme tous les métiers, malgré le fait qu'effectivement on soit bien payé, c'est plutôt sympa parce qu'on a accès à plein de choses. Ça reste un travail. Et casser ce mythe-là, il est difficile. Et de faire accepter à l'opinion publique que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent ou c'est pas parce qu'on fait du sport et qu'on est rétribué pour ça que forcément tout va bien, le travail est là. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce que le fait d'être riche fait que les footballeurs, on leur passe beaucoup moins de choses, mais complètement. Et je vais te donner un avis qui est pour le coup un avis perso, et je pense que je vais pas me faire des potes, et il y a des gens qui seront pas forcément d'accord avec toi, mais moi, mon avis sur Naïs Nia, il est j'avoue, un peu particulier. Parce que, donc, il y a ce qui se passe avec Anelka, et le contexte, c'est que Anelka est écarté du groupe France, et donc les mecs décident de faire une grève, parce que l'un de leurs coéquipiers était exclu, selon eux, pour des raisons qui n'étaient pas valables. Et donc on retient, c'est inadmissible, les mecs représentent la France, ils sont payés des millions, comment ça ils font grève? Mais enfin, tu vois, pour moi, si le droit de grève, il est pas, tu vois, t'as pas un plafond qui dit que parce que tu gagnes plus de X et parce que t'es footballeur professionnel, t'as pas le droit de faire grève. Et tu vois, je trouve ça plutôt... encore une fois, je pense que t'as la majorité des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais des mecs qui soutiennent un coéquipier qui se fait virer du groupe... Parce qu'ils sont persuadés intimement qu'ils ne le méritent pas. Moi, je trouve ça plutôt courageux, tu vois. Alors après, il y a la manière de le faire, la manière dont c'est perçu, mais faire le procès des mecs en disant qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève parce qu'ils sont riches et c'est des footballeurs, c'est une fois de plus prouver que tu n'es pas jugé comme tout un chacun, parce que tu es footballeur.
Tu vois, tu parlais de juger. Donc on a fait le centre de formation, hop, là ça va être les médias, la presse écrite principalement. Quand j'ai commencé à jouer au foot, non seulement il fallait être performant pour montrer à mes potes que j'étais un bon joueur, mes coéquipiers que j'étais un bon joueur, donc parfois l'équipe a gagné, j'avais l'impression de faire un bon match, et le lendemain, t'avais les notes de l'équipe, t'avais 4, 5. Et moi au départ je me dis putain c'est chaud quoi, putain ouais c'est pas évident, et je me dis c'est qui met les notes? J'ai posé la question codement, c'est qui met les notes? C'est lui, là. En montrant un journaliste, tu vois, j'ai dit, mais lui? Mais il a joué au foot, non? Mais comment il fait pour regarder 22 joueurs en même temps et tout ça? C'est juste une interprétation, son impression. Et en discutant avec ce mec-là, j'ai vu qu'il aimait les joueurs, tu vois, les joueurs offensifs. Les autres, il ne regardait pas les autres joueurs. Donc, il mettait une note, voyons. Voilà, il a fait deux passes, il les a réussis, super. Donc, quand tu es joueur de foot, ce qui fait le plus mal aussi, c'est d'être critiqué constamment, par des gens qui sont moins bons et moins compétents que toi. Quand tu es joueur de Ligue 1, et ça je le dis tout le temps, quand tu es joueur de Ligue 1, c'est le plus haut niveau de la pyramide. Tu vois ce que je veux dire? Que tu joues à Clermont ou à Paris, quand tu es un joueur de Clermont, tu es un bon joueur de football. Et meilleur qu'une grande majorité de tous les autres joueurs. Parce que sinon, tu ne serais pas en Ligue 1. Et tu es constamment jugé par toi, supporter, toi, journaliste, en fonction de quoi? De vos impressions, de vos appétences pour un style de jeu, tu vois? Et très tôt, je disais aux gars, mais ne vous laissez pas perturber par leur avis. Ils donnent un avis, c'est subjectif, on s'en fout, tu vois? Et la meilleure punchline que j'ai eue de toute ma vie, c'est Vikash Dorasso, au sortir du camp des loges. Vikash, à Paris, il se faisait torpiller, ouais. Détruire, ouais. Ok. Et à un moment donné, il sort du camp des loges, des journalistes, ouais, Vikash, une interview, non, je dis rien. Ah, mais il commence à... Le journaliste commence à lui dire deux, trois trucs. Vikash, il revient et dit, mais franchement, j'ai le droit de pas te répondre? Ouais, mais ça se fait pas. Mais j'ai le droit. Tu me poses une question, je dis non, je veux pas répondre. Et puis après, bon, ça s'envenime un peu, il dit, écoutez, vous êtes journaliste sportif. Pas suffisamment intelligent, ok, pour être journaliste politique, et pas suffisamment fort pour être sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et il part, il prend sa voiture. Donc, j'explique aux joueurs, ouais, c'est vrai que c'est chiant d'être critiqué par des journalistes, entre guillemets, ou par des mecs qui savent pas.
Alternative Football.
Alternative Football.
Tu peux critiquer, mais pas dénigrer. À un moment donné, il y a, parfois, ça va, c'est trop border. Justement, et de temps en temps, tu vois la subjectivité du journaliste qui dit eh, « Lui, il prend des millions. Hey, » J'ai entendu parfois sur des plateaux de télé bah, « Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça avec tout l'argent qu'il gagne. Ouais. » Tu vois, je l'ai mal faite, mais c'est terrible de dire ça.
Et c'est là où, là, tu vois, c'est là où l'équilibre est important à trouver, parce que le journaliste n'est pas protagoniste, mais il fait partie du système. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour relater, mettre en avant. Ce n'est pas le journaliste, mais c'est le média qui fait qu'il y a l'industrie, parce que tu as quelqu'un qui paye pour des droits et ensuite ça ruisselle. Et où est-ce qu'est cet équilibre-là ?
Moi, je trouve que les journalistes, ils ont leur place, bien entendu. Tout le monde a une place. Mais de temps en temps, tout ça fait que tu es un joueur, tu traverses une période un peu difficile et t'entends pas une critique constructive, tu vois, un truc qui t'assassine. Que fait-il sur un terrain de foot ? Moi, il y a une blague, enfin, il y avait une critique où c'est. On s'est même posé la question, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain de foot ? T'es journaliste, t'as fait des études, trouve-moi une phrase, tourne-la mieux pour que j'évite de passer pour un connard, enfin pour un teubé, pour un nul, parce que les gens le lisent. Et la plupart des gens ne regardaient pas les matchs, donc ils lisent « Oh là là, il est nul !» Parce que le pire, c'est que la plupart des gens se font une opinion sur la presse, parce que tout ce qui est écrit dans l'équipe, c'était la Bible. Ouais. Tout ce qui est écrit dans l'équipe, c'est que c'est vrai. Donc même, j'avais des potes, parfois, quand j'étais dans tous les clubs où je suis passé, les potes me disaient « Putain, il s'est passé ça ce matin à l'entraînement ?»« Hier à l'entraînement ?»« Non, je pense pas. »« Mais si, attends, t'as pas bien vu. » Ben, si, j'étais sur le terrain. Ah bon, d'accord.
Je suis au milieu.
À me challenger en disant non, c'est dans l'équipe, c'est ce qui a été écrit qui est vrai. Donc les journalistes, vous avez un vrai poids. Et pour en revenir à ce poids-là, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait eu un petit, tu vois, il fallait toujours être bien avec le journaliste, sous peine qu'il te mette une bonne note ou pas une bonne note. Et moi, très tôt, j'ai dit, écoute, s'il me met une bonne note alors que je suis nul, ça va se voir. Dans le sport de haut niveau, ça se voit, hein. Franchement, si t'es bon, il est obligé de te mettre une bonne note, tu vois. Et donc, j'ai toujours expliqué ça à mes gars, à tous mes collègues, pas de souci. Si tu mets 4, ok, c'est que t'es, voilà. Mais si tu mets souvent 4, c'est que t'es pas bon, parce que le public, il voit, nous, on le voit. Et le coach le voit. Donc, si le coach te fait jouer, si nous, on a confiance en toi, c'est que t'es bon. On n'a pas besoin d'avoir la référence d'un truc.
Et surtout, si t'as une note au-dessus de la note que tu mérites, c'est que t'étais la taupe.
Ouais, après ça noie et puis après.
Mais c'est surtout que ce qui se disait en tout cas, c'est que ceux qui avaient des meilleures notes, souvent c'est ceux qui donnent des informations et qui sortaient des informations du vestiaire, et donc c'est une rumeur comme
non,
quoi.
Non, mais on le sait tous. Il fallait bien inciter le joueur à donner l'équipe la veille du match ou tu vois. Mais on le voyait dans le vestiaire quand il a fait un mauvais match, il a 5 ou 6 ou 7, bah, et sérieux, ça dérangeait pas. Mais tu vois à quel point la fragilité du joueur obligé, c'est pas une prostitution, mais c'est obligé de copiner avec un journaliste pour qu'il ait une bonne note. Ça veut dire à quel point c'était terrible.
Mais là, tu le retrouves dans le milieu du professionnel. Hein. Partout. Le nombre de gens qui copinent à la machine à café, c'est pareil. C'est pas que le foot, hein, pour moi.
Ça, pour moi, c'est un peu démystifier le foot.
La politique aussi.
C'est les mêmes procédés. À ceci près que tu as une surexposition. Mais c'est les mêmes procédés dans les boîtes avec les managers, le ceci, le cela pour avoir la promo.
D'où.
Mais du coup, ouais, Max, ce que nous dit Edouard, c'est que factuellement, ce que fait le journaliste, la note, ce qu'il dit, la manière dont il le dit, et ça, effectivement, t'as raison, c'est important, tu vois, le fameux sens de la formule, qui parfois, t'as envie d'être super envolé lyrique, le mec qui trouve un truc marrant à dire. Est-ce que le journaliste, il y pense aux conséquences de ce qu'il peut écrire, dire, noter, est-ce qu'il pense à la conséquence que ça peut avoir sur le mental du joueur ?
Moi, j'ai rarement fait des notes, parce que c'est un exercice qui est très compliqué. Et c'est difficile de donner des notes, donc j'ai rarement fait des notes. Mais quand je les faisais, j'y pensais pas, parce que tu penses pas que le joueur te lit quand t'es sauf foot. Alors peut-être quand t'es l'équipe, tu sais que le joueur va te lire et tout, mais sauf foot, comme on n'était pas trop lu à l'époque où je faisais, je me disais pas que le joueur allait tomber dessus. Je me disais pas d'une que le joueur allait tomber dessus. Après, comme il y a autant de joueurs que de personnalités, il y a autant de journalistes que de mecs qui notent que de journalistes. Et donc, je pense pas avoir été moi dur. Après, oui, t'as un biais. mais t'as un biais, c'est ce que je, pour aller plus loin, tu as un biais aussi dans les data, tu vois. Dans les data que tu peux choisir.
Complètement.
Tu peux très bien avoir un biais derrière.
T'as vu comme il me renvoie la balle? Il est bon. Mais, hein. Et lui, il aurait pu être journaliste
si
politique.
Non, mais si tu vas plus loin, si tu vas plus loin, en gros, oui, on a un biais.
On a tous
en,
un biais.
En quoi je suis légitime, moi, Maxime Marchon, pour donner des notes? Bah, je suis légitime parce que j'ai fait des études de journalisme, je sais raconter un match. Après, est-ce que je sais donner des notes? Je sais pas. Mais les notes font partie du cirque médiatique autour du football, dont les footballeurs et l'industrie du foot bénéficient. On me demande de faire des notes. Est-ce que faut que je me pose la question? Est-ce que je suis légitime pour faire des notes? Est-ce que je vais dire à SoFoot on arrête de faire des notes parce que peut-être que ça va jouer sur la santé mentale? Mais non, à aucun moment.
T'as
je me suis point. Posé la question de savoir quel impact ça aurait, parce que j'ai jamais eu de retour moi sur les notes que j'ai pu donner. J'en ai fait assez peu, mais jamais ça m'est venu à l'idée, parce que pour moi on était tellement petit que ça pouvait pas atteindre. Mais en fait, ça, forcément que ça atteint. Moi-même, les journalistes, nous sommes les premiers à regarder les commentaires. Sous les articles.
Oui, mais c'est
où tu te fais insulter. Donc c'est la même chose.
Exactement.
Ouais, donc c'est exactement la même chose.
Et pour en revenir, il y a les notes où il y a, et la critique. Tu vois, tu peux mettre un 4, mais si la critique, elle est justifiée, il n'y a aucun problème. Tu vois, parfois, je prenais des 4, n'a pas récupéré suffisamment de ballons, les ballons importants, il ne les a pas récupérés. Top, critique. Tu vois, ça, c'est la vraie critique. Tu as pris 4, moi, je pense que ton match, il vaut 4, parce que dans ce que tu devais faire, tu l'as pas bien fait, point barre. Mais bravo, ouais, tu passes à autre chose. Mais dans 4, n'a jamais eu un truc qui dénigre. Tu dis non, faut arrêter. Il n'a plus les jambes de 20 ans. Mmh. On s'en fout, ça. Si je suis sur le terrain, c'est que j'ai des jambes. Mais j'ai pas été bon ce match-là. Ça doit se poser des questions. Enfin, tu vois, c'est de suite, tu vas un peu plus loin à chaque fois. Et donc, on revient à ça. Quand tu lis ça, ça t'affecte. Et quand tu lis ça de manière récurrente, ça t'affecte. Pourquoi? Parce que j'ai vu des mecs, je te jure, hein, en fonction d'un bon match, une bonne note, les mecs, ils sortaient du vestiaire et ils bombaient le torse. D'accord? Parce que ils ont pris l'habitude, le joueur de football a pris l'habitude d'être aimé, reconnu à condition, sous condition, d'être bon. Ok? D'être performant. Si t'es pas performant, qu'est-ce qui se passe? Je suis une merde. Tu vois? Donc, quand l'équipe performait pas, quand l'équipe perdait, tous les mecs capuchent et ça longe les murs. D'accord? Moi, qu'on gagne, qu'on perde, que j'ai bien joué, que j'ai pas bien joué, ben je marchais droit. Parce que so what, la terre, elle continue à tourner. La terre continue de tourner. Et le footballeur, c'est là où on voit s'il a le mental ou pas. Et il n'a pas de mental, parce qu'il a été apprécié. Dans sa tête, il est aimé que s'il gagne. Il est respecté que s'il gagne. Sinon, nobody. Personne ne va t'aimer, personne ne va t'aimer.
Et on attend une réaction par rapport au résultat. C'est-à-dire que si tu as perdu, tu dois te comporter comme ça. Si tu as gagné, tu dois te comporter comme ça.
Très souvent... On me disait, c'est pas évident pour vous en ce moment. Bah, je dis, ouais, mais ça va quand même. Le mec était plombier. Je me dis, mais pour vous, c'est dur aussi quand même, non? Vous avez tapé les bouchons. Votre vie, elle est dure aussi quand même. La vie de tout le monde est dure. La nôtre, juste parce qu'elle est plus médiatisée, ouais. Qu'on est un peu dans le confort, elle est dure. Donc, toutes les vies sont dures, tous les métiers sont compliqués et le bien-être ou le mal-être, c'est un problème pas qu'au football. Donc, c'est pour ça que la question que je vais vous poser, pourquoi le footballeur doit être quelqu'un à part? Pourquoi il doit être considéré comme quelqu'un à part? Ou même une personne publique. Moi, je suis toujours effaré de voir un acteur. Donc, la plupart des gens disent « Ouais, regarde, c'est lui, c'est génial. Il a ci, il a ça. » Mais so what? Parce qu'il passe à la télé, parce qu'il fait des films. De suite, il y a un côté, on fantasme. Il y a un fantasme. Je n'ai jamais compris ce fantasme.
Alors, je peux pas te l'expliquer parce que je suis pas ni psychologue, ni sociologue, ni rien. Mais je peux te dire ce que j'en pense. Tu as un côté où tu fais un métier dont les gens rêvent. Donc tu fais rêver. Et je pense de manière générale, c'est encore une fois c'est un avis personnel, que parmi les journalistes, les supporters ou même les gens de l'industrie du foot de manière générale, si tu demandes au mec, bah, est-ce que tu échanges ton métier contre une carrière de footballeur? Je pense sincèrement que t'en as pas beaucoup qui te disent non. Et je pense que c'est le premier biais, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on a tous un peu envie d'être à leur place. Et donc forcément, t'es dans le domaine de l'idéalisation et du rêve. Putain, j'aurais aimé faire ça. Et donc, t'as une forme de fascination qui génère de l'émotion, qui peut être hyper positive quand ça gagne et hyper négative quand ça...
Quand ça perd.
Ouais, quand ça perd, non, mais...
Donc, du coup, il y a une forme de fantasme. C'est-à-dire que tu voudrais qu'un joueur de football se comporte comme toi, tu te comporterais si t'étais footballeur professionnel.
Alors, moi, non.
Je pose une... Voilà.
Parce que j'ai...
Tu connais.
Parce que j'ai Ouais, je suis quand même exposé à ce milieu depuis longtemps. J'ai des potes qui ont fait des centres, qui ont été professionnels, etc. Donc, je connais bien le milieu. Et donc, puis je travaille aussi dedans. Donc, tu prends une certaine distance et tu grandis. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui est complètement étranger à ce monde-là et qui ne le vit qu'à travers les médias et les matchs qu'il regarde à la télé, ouais, il est ces attentes-là. C'est-à-dire que moi, si j'étais Balotelli, je ferais pas ça. Moi, si j'étais Edouard Cissé, je ferais pas ça. Ouais. Tu vois? Et, mais parce que t'es dans le domaine du rêve et du fantasme. Et tu vois, quand tu fais rêver les gens, ils ont des attentes. Et le fait que tu puisses aussi, et ça c'est un autre sujet duquel on parlera peut-être plus dans l'épisode sur le footballeur citoyen qu'on concocte, le fait que tu aies une audience, que tu l'aies choisie ou pas,
l'audience.
Mais que tu aies une audience, c'est-à-dire que des gens t'écoutent et te regardent.
Ils te regardent faire ton métier.
Ils te regardent faire ton métier. Ouais. Donc ça veut dire que forcément, que tu le veuilles ou non, et c'est ça qui est difficile. C'est qu'en gros, on t'impose une influence que t'as pas demandé. Bah, forcément, tu dois te. On attend que tu te comportes en fonction des gens qui te regardent.
Bah, en fait, c'est un métier où il y a des droits à l'image. Et donc, à partir du moment où il y a le droit à l'image, une partie de ton métier est liée à l'image que tu renvoies. Donc, les gens se font une image sur l'image que tu renvoies, mais du coup, ils demandent un peu d'exemplarité, un peu comme. Peut-être pas un politique, mais typiquement les grands patrons d'industrie représentent un groupe, ils représentent une marque, tu représentes le PSG, tu représentes Marseille, tu représentes ton entreprise. Donc en tant que représentant de ton entreprise, en tant que grand patron qui est très bien payé, on va demander un peu plus d'exemplarité par le salaire qu'il a et parce qu'il est tout en haut de la chaîne et qu'il représente et que c'est un ambassadeur de sa marque, quelque chose qui le dépasse sa propre personne, on va lui demander d'être en adéquation avec une image qu'on peut avoir qui est peut-être totalement faussée, une très mauvaise image que les supporters ont de leur club ou de l'institution qu'il y a derrière. Mais on va demander à ce que ce soit en adéquation, parce que le footballeur ne se représente, il se présente lui, il présente aussi la classe des footballeurs et l'industrie et en même temps son club. Donc on va attendre de lui que, bah comme il y a une question d'image, peut-être que celui que tu es dans ton métier, mais c'est pareil pour moi finalement. Est-ce que je peux être totalement Maxime Marchand à mon travail? Non, je peux pas être totalement Maxime Marchand à mon travail. Le fait de mettre les pieds, si je suis chez moi, bah je mets les pieds sur la table, je pète, je rote, j'en sais rien, tu vois. Bah tu le fais pas dans l'entreprise. Donc tu vas pas faire non plus tout ce que tu te permets chez toi. On va demander à un footballeur qu'il le fasse pas non plus sur le terrain, quoi.
Sauf que la conséquence pour toi, elle est minime par rapport à la conséquence pour un footballeur. Et c'est ça la difficulté. C'est pas ce que tu dis. C'est une influence et une intention qui est imposée. Et c'est, je pense, ce qui est très difficile.
Et ce qui est difficile, c'est que les gens se disent, bah ouais, mais ça, c'est compensé par le fait que tu gagnes bien ta vie. Donc si tu gagnes bien ta vie, t'es heureux parce que tu as tout ce que tu veux. Et c'est là où c'est faux. Mais les gens peuvent pas s'empêcher de dire ça parce que pour les gens, parce qu'ils ont pas eu accès à cet argent. Et quand bien même ils auraient accès à cet argent-là, ils se rendraient compte, je leur souhaite d'avoir accès à tout cet argent-là, parce qu'ils se rendraient compte que ça changerait pas leur vie et ils seraient tout aussi malheureux, ou ils auraient les mêmes problèmes, mais avec de l'argent.
Mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Tiens, sur l'argent.
Oh bah c'est très bien. On gagne beaucoup d'argent. Il y a un autre truc, c'est sur la liberté. Donc on gagne beaucoup d'argent. La plupart des gens disent que l'argent, c'est la liberté. Donc effectivement, on a des gros salaires, mais on peut jamais en profiter. Ok. Pourquoi? Parce que on peut en profiter. Moi, mes vacances étaient au mois de décembre, une semaine. Donc, pendant 5 mois, il n'y avait pas de vacances. Des week-ends, mais tu peux pas. Non, même pas les week-ends, tu vois. Tu peux pas dépenser ton argent comme tu veux. Désolé.
C'est le banquier, justement.
C'est le banquier, justement. Ouais, si, arrête de dire quoi. Non, mais tu peux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas le dépenser, on peut pas partir. La première chose que je posais, question que je posais à mes potes, si vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Bah, je pars en voyage direct. Bah, nous, tous les mois, on gagne de l'argent, mais on peut pas partir en vacances 15 jours, 3 semaines. Mais je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais ma femme partait souvent en vacances, toute seule avec les enfants. Alors que, tu vois, je pouvais être là. Donc, la plupart des joueurs, des gens qui gagnent de l'argent, ils ont plein d'argent. Comme les patrons du CAC 40, ils ont plein d'argent, mais ils n'en profitent jamais. Donc, ça frustre. T'as de l'argent en banque, super. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es footballeur? T'achètes des fringues, gavé de fringues.
Des voitures.
Qui sert à rien. Des voitures. Et voilà. Mais par contre, et ce qui est terrible, c'est que t'as pas ce sentiment de liberté, parce que cet argent-là que tu as, indirectement, on t'a expliqué que toi, tu dois te concentrer sur l'argent, donc tu dois gagner sur le terrain, donc tu dois en gagner encore d'autres, encore plus, ok? Et tout ce qui est extérieur, donc gérer ton argent, le placer, t'inquiète, il y a d'autres personnes qui sont plus à même que toi de le placer. Donc tu fais que t'es une vache à lait, quoi. T'es là, tu gagnes, tac, mais tu le dépenses jamais. Donc tu économises ou tu fais des placements à droite, à gauche, mais c'est pas toi qui le fais, c'est d'autres personnes. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui, à un moment donné, tu pètes des plombs. Il y a eu des joueurs qui sont retrouvés sur la paille.
Ouais.
Tu vois, et ça, je me dis, mais à la fin de ta carrière, tu t'es sacrifié pendant 10 ans, 15 ans, enfin, tu t'es sacrifié, non, pas sacrifié, mais tu t'es voué, enfin, tu t'es penché sur ta carrière à fond. Et au bout de 15 ans, tu t'apprends que les mecs, ils sont partis avec la caisse. Tu te dis, mais merde. Parce que depuis tout petit, enfin depuis le centre de formation, toi tu te concentres sur le terrain, ouais. Et tu te concentres tout le temps, tu vas au lit à 10 heures, tu fais ceci et tu fais cela. Bah, les mecs, après, mentalement, ils pètent les plombs. Mm. Mais c'est une usure mentale. Et donc, non, l'argent, ça fait... arriver à un certain niveau, ça, t'as d'autres problèmes. Enfin, ça t'enlève les problèmes primaires. Enfin, tu ouais. vois, voilà, c'est Maslow, quoi, tu vois, la sécurité ouais. et tout ça, ta famille, elle est à l'abri. Hein.
Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que bah, quand tu disais à ta fille que bah, ta carrière, c'était pas un long fleuve tranquille, mm-hmm. que tu as eu des moments. En fait, je regardais un peu en me renseignant sur, pour revenir plus un peu sur le mental. Ouais. Parce qu'on a dérivé, mais en même temps.
Mais c'est toutes les questions qu'on
a. C'est toutes les questions dans la tête d'un footballeur. Ouais. Dans la tête d'un footballeur, t'as pas que le mental, t'as tout ouais. ce qui se passe toute sa vie. Mais je lisais sur le mental des entraîneurs, parce qu'on se pose pas trop la question. Et je lisais une citation de Gérard Rouillet qui disait que. La vie d'un entraîneur, c'est 20% de bonheur et 80% d'embrouilles, de soucis et de conflits. Mmh. Est-ce qu'au niveau du joueur, c'est équivalent, ce qui pourrait être très bien le pourcentage dans la vie de professionnel,
de tout le monde.
D'un journaliste et de tout ouais. le monde. Finalement, 20%, 80%, c'est assez, c'est le bon pourcentage. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose aussi, toi? C'était 20% de bonheur et 80% de soucis, de conflits, de questions, de problèmes ou,
dans ma vie de footballeur.
T'as été heureux combien de temps dans ta vie de footballeur ou... Non, mais tu vois, quand tu disais à ta fille, bah, papa, t'as dû être heureux tout le temps. Bah, toi, tu me disais, bah non.
Bah non, déjà, mon fils, il fait du foot et je souhaite pas qu'il fasse du foot, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est dur, c'est concurrentiel. Donc, est-ce que j'ai été heureux? Oui, il y a des moments. Moi, j'ai eu la chance de gagner des titres. Donc, c'est à ce moment-là où tu dis, quand tu gagnes des titres, t'es avec tes potes. Oui, là, c'est beau. Mais on gagnait pas des titres tous les ans. Sinon non c'est quand même dur, je sais pas comment expliquer ça, c'est dur quoi, c'est dur, tu es déjà t'es en compétition avec tes potes, tes collègues,
c'est concurrentiel,
c'est tout ce qui est ultra concurrentiel, c'est dur, tu dois être bon tous les jours, on te regarde, tu vois, c'est pénible.
Dans le reportage je disais que quand tu dois dire ça va, tu sais, moi je peux dire à un collègue bah bof je l'ai dit dernièrement à Mathieu, ouais. Bah bof, bah ça va bof, tu vois. Toi, tu peux pas, parce qu'en fait, c'est une faille. Est-ce que t'as déjà dit bof à un collègue? Non, t'es obligé de dire, bah ça va, coach. Ouais,
tu,
très bien.
Tu sais ce que je disais? Je chambre, je dis, ça va mieux. Ah bon, pourquoi? Ouais, j'étais dans le trou, mais ça va mieux. Et tu vois, pour interpeller, c'est toujours pareil, t'as le droit de le dire. Mais les mecs s'interdisent de le dire parce qu'il faut paraître fort. Et moi, je le sais qu'il est pas fort en ce moment. Il est nul, il rate toutes ses passes, alors que le mec, il est super fort techniquement. T'es dans le trou, mec. Donc, tu lui tends une perche, il dit non, ça va, t'inquiète. Bon, ben, tu laisses aller. Mais tu sais qu'il va pas bien. Et c'est logique. Paris Saint-Germain, là, ton équipe, tu vois les mecs, ils vont pas bien. Tu vois? Et l'année dernière, on voyait les mecs qui allaient pas bien. Et t'as beau t'appeler Neymar, super fort, il allait pas bien. Sauf que comme lui, c'est une star, et que il est payé des mille et des cents, et que malheureusement il jouait aux jeux vidéo et il faisait des soirées, posez-vous la question pourquoi il joue aux jeux vidéo et il fait des soirées. C'est un échappatoire, comme des mecs qui boivent, comme des mecs qui jouent aux jeux, tu vois, l'argent. En Italie, tu vois, l'argent, parce que t'as besoin d'avoir un sas de décompression, mais c'est des sas de décompression dangereux, c'est, tu changes, tu rentres en dépression et c'est de la drogue, c'est une drogue, alors c'est des drogues, mais voilà. Et très souvent, enfin moi, mon échappatoire, c'était ma famille. Donc quand je rentrais à la maison, je parlais jamais foot. Si bien que mes deux filles, ma cadette, c'est tout juste si j'ai joué à Monaco, elle connaît pas mon histoire, elle a 17 ans pourtant, bref. Donc je rentrais à la maison, je parlais pas foot. C'était mon échappatoire, d'accord? Mais il y en a d'autres, ils ont consacré toute leur vie au football, ok? Donc leur femme est parfois divorcée, enfin il y a eu divorce, donc ils se retrouvent seuls. Ma carrière c'est mort, ma vie de famille c'est mort, ouais. Tu fais comment? Donc, dépression. Donc, le mental, c'est quoi? Bah, t'es fragile.
Ouais, et puis t'as un côté où, tu vois, le pire jour de ta vie, quand t'es, tu vois, quand tu travailles dans un bureau, t'as pas les caméras autour de toi au bureau, quoi. Tu vois, donc, tu vois, je dis n'importe quoi. Mec qui perd quelqu'un, qui divorce, qui c'est des trucs violents dans la vie de chacun. Tu vois, le samedi soir, il n'y a pas forcément, tu vois, 24 cams, une spider, etc. qui vont, ou un mec à la fin du match qui va me demander comment je vais. Et ça, effectivement, c'est en ça quelque chose de très différent pour le footballeur.
Ce qui fait mal aussi, c'est que c'est un sport collectif. mais c'est quand même individuel. Et t'as beau être un groupe, ce qu'il faut accepter, c'est qu'il y ait des joueurs. C'est le fameux du deux poids, deux mesures. Qu'il y ait des joueurs qui vont capter toute la lumière.
Alternative Football.
À 13 ans, t'es pas formé. 14 ans, t'es pas formé. À 15 ans, psychologiquement, je te parle. 15 ans, t'es pas formé. 16 ans, t'es pas formé. 17 ans, t'es pas formé. Si pendant 4-5 ans, on te forme d'une certaine façon, en obéissant à tout va, en disant « oui, chef », entre guillemets, en te faisant comprendre que la moindre erreur, t'es éjecté. Si t'es pas bon, tu joues pas, t'es remplaçant. Si t'es trop longtemps blessé, tu signes pas un contrat. Tout ça, la peur, c'est l'impuissance acquise. La peur, quand t'as met dans la tête, en disant « purée, si je suis pas bon, je vais sauter. Si je joue pas ce match-là, c'est quelqu'un qui va prendre ma place. » Ça, c'est cette peur qui est... C'est un inception qui est infusé dans ton esprit et après, tu le gardes. Je reviens à moi. Moi, quand je jouais pas, mais je paniquais pas, je joue pas. Je suis sur le banc. Je regarde. Si le mec qui joue ma place, il est bon, dès le lendemain, bah, sors-toi le doigt du popotin et taf, quoi. Si le mec, il est nul, je dis, c'est bizarre, je vais juste regarder le résultat. Est-ce que l'équipe a gagné ou l'équipe a perdu? Le mec, il est nul, l'équipe a perdu, normalement, il doit sauter. Logique, je vais jouer. S'il est nul et l'équipe elle gagne, je me dis, bon, le coach, il a pas changé une équipe qui gagne. Aussi simple que ça. Et très souvent, on me disait, écoute, Edouard, si tu joues pas, une anecdote, je vous la raconte il y a longtemps, Guy Lacombe, que j'adorais, et pourtant, on s'est souvent frité. Une période, un joueur perd son papa et donc doit jouer à une place particulière. Donc Bernard Mendy perd son papa et je dois jouer latéral droit.
Ouais.
Ok.
Ouais, je me souviens.
Voilà. Stéphane Pichot, il est une période un peu compliquée. Donc, Guy me dit, écoute, Edouard, tu vas jouer latéral droit. Bah, j'ai pas trop joué latéral droit, mais c'est important. Ok, un match, super. Un match, ça se passe pas trop mal, je joue. Deuxième match, parce que tu joues trois jours après, tu vas jouer. Bon, ok, je joue parce que Bernard, il est toujours pas bien et tout. Et je fais six matchs quand même, latéral droit.
Ouais.
Six matchs latéral droit, ok. Donc, comme moi, je veux pas saboter l'équipe, je suis pas trop mauvais. Mais plus les matchs avancent, plus tu dis, on voit tes défauts. Ah, il a du mal à se retourner, tout ça. Je vais voir le coach, je dis, voilà, maintenant, ça fait six mois, ça fait six matchs, ça fait un mois. Donc là, je veux plus jouer latéral droit. Il me dit, si, tu vas jouer latéral droit. Parce que c'est moi le coach, c'est moi qui décide. Tu sais, il affirme un peu, mais voilà. Et je dis, ah, excusez-moi, coach,
j'ai mal exprimé.
Je ne vais plus jouer latéral droit. Ouais. Il me dit, si tu joues pas latéral droit, tu vas jouer avec la réserve. Ok, je me lève et je vais pour partir. Parce qu'il pense que quand il met cette pression-là, ouais. Je vais dire, ah ben d'accord, ok. Ouais, pas de souci. Je me lève. Il me rappelle, il me dit, Edou, viens. Donc il commence à me dire, écoute, mais franchement, j'ai besoin de toi à droite, en milieu, j'ai ce qu'il faut. Je dis, bah, c'est pas grave, vous mettez sur le banc. Et il m'a mis sur le banc. Tu vois?
Ouais.
Mais je dis, mais moi, si vous mettez pas, sincèrement, moi, je suis toujours resté très simple. Si vous mettez pas en milieu, c'est que sur le moment, j'étais pas suffisamment bon pour jouer en milieu. Point barre. Et ouais. Si tu comprends pas ça, c'est que tu te mens à toi-même. T'as déjà vu un coach se passer d'un mec qu'il aimait pas et qui était bon?
Ouais. Qui? Bah, tu y étais.
Ronaldinho. Ouais. Ouais, non, mais il était pas. Voilà, il y a que lui. Mais globalement, si t'es bon, tu joues et si t'aimes pas, tu joues. Donc il faut arrêter de faire, de faire tous ces trucs-là. Donc c'est, j'ai digressé, mais c'est la peur qu'on insuffle dans la tête des joueurs de foot. Moi, ça me tue, quoi.
Salut messieurs, petit message pour vous dire qu'encore une fois, on a été trop long et trop bavard, mais vous le savez puisque l'enregistrement a duré 2 heures. Du coup, sous les conseils avisés de Marc, on va couper encore une fois l'épisode en deux. Donc la deuxième moitié de cet entretien avec toi, Edouard, sera retrouvée d'ici 15 jours.
Alternative football. Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.